Saint Irna Dulcé. Irna Dulcé, dans le siècle Maria Rita, née le 26 mai 1914, à Salvador de Bahia. À 13 ans, elle a déjà transformé la maison familiale en un centre d'accueil de personnes en difficulté. C'est à cette époque qu'elle manifeste pour la première fois le désir de se dédier à la vie religieuse, après avoir visité l'une de ses tantes vivant avec d'autres personnes pauvres parmi les pauvres. Sa vocation de travailler pour la population souffrante est due à une influence directe de sa famille, à un héritage de son père et à un appui décisif de sa sœur Dulcinea. Le 8 février 1933, peu après avoir terminé sa formation de professeur, Maria Rita entre dans la congrégation des sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception de la Mère de Dieu, dans la ville de São Cristóvão, dans l'état de Sergipe. Une année plus tard, le 15 août 1934, elle prononce ses vœux définitifs à l'âge de 20 ans, recevant le nom de Irna Dulcé, en hommage à sa mère, décédée quand elle avait 7 ans. Sa première mission est d'enseigner dans un collège tenu par sa congrégation, dans le quartier de Massa Randuba, dans la ville basse El Salvador. Mais très vite, elle songe de nouveau à œuvrer pour les plus pauvres. Dès 1935, elle commence à aider la communauté pauvre des Alagabdos, les inondés, et d'Ita Gapjipé, de la ville basse, lieu où vont se développer les principales activités des futures œuvres sociales d'Irna Dulcé. Les premières années de travail apostolique de la jeune missionnaire sont intenses. En 1936, elle fonde l'Union ouvrière de Saint-François, premier mouvement ouvrier de la Bahia. En 1937, elle fonde, avec le frère Hildebrando Krutop, son père spirituel, le Cercle ouvrier de Bahia, qui compte rapidement 3 cinémas, construits grâce à divers dons. En mai 1939, Irna Dulcé inaugure le Collège Saint-Antoine, école publique destinée pour les ouvriers et leurs enfants, dans le quartier de Massa Randuba. La même année, elle fait construire 5 maisons dans l'île Aura pour accueillir les malades qui errent dans les rues. Expulsée de ce lieu, elle déménage d'un endroit à l'autre, emmenant ses malades avec elle, dans divers endroits. Finalement, elle s'installe dans le poulailler du couvent Saint-Antoine, qui s'improvise peu à peu en auberge et devient la base du futur hôpital Saint-Antoine. Ce dernier s'agrandit et est aujourd'hui le centre d'un immense complexe médical, social et éducatif qui continue à ouvrir ses portes pour les pauvres de la Bahia et de tout le Brésil. L'encouragement pour développer son œuvre, Irna Dulcé le tient du peuple bahianais, des Brésiliens de tout le pays et de personnalités internationales. En 1988, elle est recommandée par le président de la République de l'époque, José Sarney, et la reine Sylvia de Suède, pour recevoir le prix Nobel de la paix. Mais surtout, le 7 juillet 1980, elle reçoit les encouragements de Saint Jean-Paul II, lors de sa première visite du pays, pour développer son œuvre. Les deux se rencontreront de nouveau le 20 octobre 1991, lors de la seconde visite du souverain pontife au Brésil. Saint Jean-Paul II insiste alors pour bousculer son emploi du temps, minuté, pour visiter Irna Dulcé au couvent Saint-Antoine, déjà bien affaiblie dans son lit d'hôpital. 5 mois plus tard, le 13 mars 1992, elle rejoint la maison du Père. Le jour de ses obsèques, dans l'église Notre-Dame de l'Immaculée Conception de la Plage, les hommes politiques, les industriels et les artistes se mêlaient aux milliers de fidèles, souvent très pauvres, venus pleurer leur bon ange de la Bahia. Son œuvre constitue l'une des plus grandes et des plus respectées institutions philanthropiques du pays. Toute sa vie, malgré sa santé fragile et son insuffisance respiratoire, elle courut d'un bureau à un autre, avec comme unique objectif de faire de sa vie un instrument vivant du salut du monde. à Hermopolis en Égypte, vers 303, Saint Sabin, martyr, qui fut cruellement torturé et enfin jeté dans le fleuve. À Nicomédie, en Bithynie, les saints martyrs Macédonius, prêtre, Patricia, son épouse, et Modeste, sa fille. En Perse, l'an 559, Sainte Christine, martyre, qui aurait été frappée de verge jusqu'à la mort, sous le roi des Perses, Chosroès Ier. À Poitiers, vers 564, Saint Pian, évêque, qui aida Sainte Radegonde à bâtir son monastère. À Séville, en Espagne, vers 600, Saint Léandre, évêque, frère des Saint Isidore, Fulgence et Florentine. Par sa prédication et son activité pastorale, il fit passer de l'hérésie arienne à la foi catholique le peuple des Visigoths, avec l'aide de leur roi, Ricared. Au monastère de Novalaise, dans la vallée de Suse, au pied du mont Cenis, vers 840, Saint Eldrad, abbé, qui fut zélé pour le culte divin, institua la louange permanente des psaumes et prit soin de faire construire de nouvelles églises. À Cordoue, en Andalousie, l'an 857, la passion des saints martyrs Rodrigue et Salomon. Le premier, qui était prêtre, refusa de croire que Mahomet était vraiment un prophète envoyé par le Tout-Puissant et fut jeté en prison, où il tomba sur Salomon, qui avait adhéré un moment à l'islam. Tous deux donnèrent une fin glorieuse par la décapitation au parcours de leur combat. À Camerino, dans les Marches, en 868, Saint Ansovin, évêque. Au monastère de Cava, en Campanie, l'an 1208, le bienheureux Pierre II, abbé. À Oxford, en Angleterre, le bienheureux Agnel de Pise, qui fut envoyé par Saint François en France, puis en Angleterre, où il établit l'ordre des mineurs et promut les sciences sacrées. À Ernée, dans le Maine, en 1794, la bienheureuse Françoise Tréhé, vierge, sœur de la charité. Elle se dévoua avec tout son zèle à enseigner les enfants et à soigner les malades. Et au temps de la Révolution française, parce qu'elle avait refusé le serment à la constitution civile du clergé et qu'elle avait donné asile à des prêtres, elle fut condamnée à mort et aussitôt guillotinée.